Bon, et maintenant, tous ensemble.
Vous venez avec nous?
Allons.
Bien sûr, l'aventure continue.
Maintenant, je fonce, Alphonse.
Ah, c'est bien, alors, allez, on y retourne.
Au large de la pointe Finistère, lorsque la tempête se lève et que les éléments se déchaînent, la plupart des bateaux rentrent le plus vite possible se mettre à l'abri dans un port. La plupart, sauf les navires en perdition et ceux chargés de leur porter secours. Et lorsque ce sont des navires de commerce gigantesques qui se retrouvent en mauvaise posture, leur dernier espoir est l'abeille Bourdon, encore appelée le Saint-Bernard des mers. Ce remorqueur a ramené à quai, à l'abri de la rade de Brest, des centaines de cargos à la dérive. Comment se déroulent ces opérations de sauvetage ? Au large, on le découvre en lisant le roman graphique Fortune de mer, paru chez Futuropolis. Des auteurs de ce docu-fiction sont Clément Belin et Bruno Costès, tous deux depuis 5 ans sur des remorqueurs, travaillent sur ces remorqueurs depuis 5 ans. C'est donc un métier et un univers qu'ils décrivent de l'intérieur. Ils sont nos invités et ils vont nous raconter ces périlleux sauvetages en haute mer, l'organisation et la vie à bord de ces remorqueurs. Également avec nous, pour les accompagner, Stéphane Dugas, notre spécialiste navigation, attitré reporter. Il a longtemps été rédacteur en chef du journal de la Marine Nationale. Et il tient le blog Embarquement. En fin d'émission, nous irons nous réfugier dans la lagune de Venise à bord de l'Energy Observer, premier navire propulsé aux énergies renouvelables et à l'hydrogène. Voilà pour le plan de navigation de la deuxième partie de notre bivouac.
Le pétrolier panaméen Amoco Cadiz a talonné les rochers cette nuit à 3000 au large de Port-Sal dans le Nord Finistère. Il est en partie couché sur les rochers de la Grande Basse alors que les vents de Norrois soufflent en tempête et que la mer est très forte. À son bord, 230 000 tonnes de brut. Le plan Polmar de lutte contre la pollution est déclenché depuis minuit et c'est tant mieux puisque la marée noire a atteint les côtes bretonnes. Henri Vincent, notre envoyé spécial permanent à Rennes, est sur place.
J'arrive à l'instant de la côte, du point le plus proche du lieu de l'échouage du pétrolier. L'odeur qui était perceptible à Brest, ici, est pestilentielle. Les vagues qui viennent briser sur les plages sont noires de mazout. La marée noire n'est plus une menace, c'est dès maintenant une triste réalité. L'Amaco Cadiz s'est échoué, la proue tournée vers les plages, comme une menace. Très enfoncée sur son arrière, les vagues passent par moments au niveau de la passerelle, qui est maintenant souillée de coulées brunâtres. Les remorqueurs sont actuellement au large, ils ne peuvent approcher avant la haute mer, mais on ne voit pas très bien comment la catastrophe pourrait maintenant être évitée.
Interactualité, le 17 mars 1978, la veille, l'Amoco Cadiz sombrait à 2000 des côtes Finistère. Stéphane Dugas, qu'est-ce qui s'est passé exactement pour ce pétrolier ?
C'était il y a 40 ans, ouais. 40 ans tout juste, au mois de mars, et ce pétrolier était en Arabie Saoudite, remontait vers l'Europe du Nord, puisqu'en fait, en mer, tous les échanges se font entre l'Asie ou le Moyen-Orient et l'Europe, et ça transite en Méditerranée, à Gibraltar, au large du Portugal, et au large de Ouessant pour nous, et au large de Ouessant, en passant Ouessant, le bateau va être pris dans ce qu'on appelle des fortunes de mer, les choses vont s'enchaîner pas du tout comme il faut et ce bateau va et on l'entend dans ce reportage avec énormément de pétrole et ce bateau va s'échouer le long des côtes bretonnes et ça va être quelque chose qui va être en France qui va avoir un retentissement incroyable puisque c'est l'une des plus grandes catastrophes écologiques européennes du XXe siècle.
227 000 tonnes de brut et de fioul qui sont déversées sur les côtes françaises.
Sur les côtes bretonnes et avec des images complètement... Alors déjà on l'entend dans le reportage des odeurs pestilentielles, puisque et tout est noir. Et on a souvenir, moi j'avais 4 ans, j'avais été en vacances quelques mois, donc après cette catastrophe, et j'ai encore en tête ces odeurs de pétrole, j'avais pourtant que 4 ans. Ouais. Et j'ai souvenir de vagues images avec des gens en ciré jaune qui étaient sur les plages, et malheureusement ça sera aussi également la même chose plus tard avec l'Erika. Et là, on prend conscience que si on ne surveille pas mieux le rail de Ouessant où se croise un nombre de bateaux de commerce incroyable et si on n'est pas capable de donner assistance à ces bateaux, une assistance efficace qui avait été tentée sur la Amoco Cadiz, mais le problème sur la Amoco Cadiz c'est que le temps de joindre l'armateur, le temps de passer des coups de téléphone, le remorquage qui était à l'époque un véritable business fait que la catastrophe est survenue et dans la mémoire des Bretons et même dans la mémoire j'allais dire des Français, ça a imprégné, ça a marqué les imaginaires et ça a marqué les esprit surtout.
360 km de littoral qui vont être souillés, 30% de la faune, 5% de la flore. tricolores marines qui vont être détruits. C'est donc ce naufrage qui va motiver la mise en chantier des remorqueurs de haute mer, Stéphane Dugas.
Il y avait déjà des remorqueurs. Les remorqueurs sont arrivés avec quand les bateaux se sont transformés, ils sont passés de la voile à la vapeur. Et donc, dans les années, au début du XXe siècle, les choses se sont organisées. D'ailleurs, si ma mémoire est bonne, Louis Maulbert, le Camus Maulbert, enfin des personnages qui ont d'ailleurs inspiré Roger Versal, le romancier, et qui donnera le film Remorque avec Michel Morgan, Jean Gabin, et qui célébrera justement l'âge d'or, mais les débuts du remorquage avec ces marins du Romal qui sortent dans des mers complètement démontées et qui permettent d'éviter le pire, puisque cette côte bretonne, face à l'océan Atlantique, avec beaucoup de rochers, avec des tempêtes qui peuvent être redoutables durant l'année, avait vu un nombre de naufrages conséquents. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on avait construit ces grands phares pour avertir les bateaux ouais. qu'il y avait des dangers. Et là, à partir de 78, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas et qu'il faut mettre en place une chaîne de sauvetage qui soit la plus conséquente possible. On pense d'abord à créer des gardes-côtes. Ce qui est le cas chez nos amis outre-Manche, nos amis britanniques, ce qui est le cas aux États-Unis. Et la France va faire le choix de faire travailler toutes ses administrations avec à la tête un préfet maritime, le prémar, qui va être donc il y a un préfet maritime à Cherbourg pour la mer du Nord et la Manche, un préfet pour l'océan Atlantique à Brest, et puis la même chose à Toulon et la même chose en Outre-mer. Et on va mettre en place le maximum de maillons avec le maximum de moyens nautiques, dont les remorqueurs dont on va parler tout ouais. à l'heure, mais aussi des moyens aériens, puisque les moyens aériens permettent d'anticiper sur tout ça. Et c'est ce qu'on appelle, dans le jargon, l'action de l'État en mer, la sauvegarde maritime, bref, le sauvetage.
Voilà. Avec donc ces remorqueurs et Costès et Clément Belin. Alors je ne sais pas quel âge vous aviez, ni même si vous étiez né en 1978. Tout juste, à peine né. Mais aujourd'hui, vous travaillez à bord de ces remorqueurs de sauvetage. Alors décrivez-les-nous, à quoi ils ressemblent? Ce sont des bateaux, quand on voit les images, qui paraissent presque ridiculement petits par rapport aux énormes cargos auxquels ils sont censés se raccorder pour les tirer. Décrivez-nous ces bateaux, Costès.
Alors effectivement, ils sont beaucoup plus petits que les cargos qu'on va être amenés à remorquer, mais ils sont très très puissants. C'est-à-dire, ils ont une coque qui est très ventrue, il y a 4 moteurs de propulsion chacun, ouais. et ils ont un tirant d'eau très conséquent en fait. Quand ils sont sur l'eau, comme ça, on voit pas le dessous. Mais ils ont un tirant d'eau qui est équivalent de ces gros cargos. C'est-à-dire, pour cette taille de bateau, c'est très, très impressionnant. C'est...
Clément Belin, ce sont des bateaux particulièrement manœuvrables. En plus d'être puissants, ils sont particulièrement manœuvrables. C'est ce qui permet, dans la tempête, d'aller au secours de ces cargos en péril.
Oui, comme l'a dit mon collègue, ils sont très puissants. Ils ont 2 hélices qui sont très grandes par rapport à leur taille, donc qui leur donnent une puissance de traction très forte également. Et donc, comme ils ont 2 hélices devant plus des propulseurs à l'avant et à l'arrière pour certains, ils sont manœuvrants comme un remorqueur portuaire, sauf qu'ils sont un peu plus gros.
Ouais. Stéphane Dugas ?
Oui, en fait, quand Costès parlait du tirant d'eau, c'est cette surface du bateau qui est sous la surface de l'eau. Donc il faut imaginer un peu comme un iceberg dont on voit émerger la face blanche, que dessous il y a une surface importante. Et en fait, ces bateaux, on peut le dire, c'est pas des gros 4x4, mais des gros remorqueurs, des gros taureaux des mers, et qui sont ouais. capables surtout de pousser, de tracter des tonnages complètement conséquents. Quoi.
Combien y en a-t-il de ces bateaux remorqueurs de sauvetage? Qui connaît la réponse à cette question?
Alors, il y en a 4. Il y en a un à Boulogne-sur-Mer, ouais. un à Cherbourg, un à Brest et un à Toulon. Ouais.
Et vous êtes allé sur différents, plusieurs d'entre eux, hein, pas toujours.
Alors,
le même.
Moi, je suis à Toulon depuis 4 ans maintenant. J'avais fait le Pas-de-Calais également. Ouais. Et Bruno, lui, il a travaillé sur
la
Bourbon.
J'ai fait un peu tous les bateaux. J'ai ouais. commencé par la Bourbon, ouais. à Brest. Et c'est un peu pour ça que la BD se passe là-bas. C'est un peu la découverte de ce milieu-là, ouais. de ces bateaux-là, de ce style de travail.
Parce que la Bourbon, hein, l'unité Bourbon ou l'abeille Bourbon, hein, c'est comme ça qu'on les appelle, c'est un peu le plus mythique.
L'abeille Bourbon, le plus grand des remorqueurs en poste le long des côtes de France, est en route. Le bateau est rompu aux missions délicates en Manche ou en Atlantique. À la passerelle, il y a Isabelle. Comme le reste de l'équipage, l'officier de quart a les yeux rivés sur ce navire en perdition, un roulier qui s'approche inexorablement de la côte.
Là, on est là depuis 4 jours. Et aujourd'hui, on est à plus de 5000 décotes. Si on continue comme ça, on va être dans 40 heures sur les côtes.
Les membres d'équipage de l'Abeille Bourbon aiment les missions impossibles. Avec leurs puissants remorqueurs, ils ont tiré d'affaire bon nombre de navires en détresse.
Extrait d'un documentaire diffusé dans Thalassa en 2016. C'est de par le terrain où il a à intervenir qu'il est devenu aussi mythique, celui-ci, l'Abeille Bourbon. Costes, oui. Ou Clément Belin.
On peut dire, oui, que c'est Brest, c'est un endroit particulier, parce qu'il y a un gros trafic maritime, tout ce qui passe en Manche, qui va en mer du Nord après. Il y a aussi l'exposition face à l'Atlantique, avec les grosses houes de l'Atlantique, toutes les dépressions. Donc ce qui fait que c'est celui de Brest qui fait le plus d'opérations, qui est le plus actif.
Cette côte qui est vraiment très dangereuse, il y a des récifs partout, il y a des îles. C'est le virage pour embouquer la Manche, donc c'est resserré, enfin tout. Toutes les conditions sont là pour qu'il y ait des soucis. Et ce qui arrive régulièrement.
Et ce qui arrive régulièrement. C'est-à-dire que ce bateau, combien de navires en perdition il sauve, il sort de la panade chaque année? On a des chiffres de ça?
Chaque année, en moyenne, je pense une bonne dizaine par an.
Ouais, je pense que la Bourbon, c'est aux alentours d'une dizaine par an. Enfin, en ce moment, peut-être dans le temps, c'était plus. Là, avec la fiabilité des bateaux qui s'améliore,
voilà.
C'est un petit peu moins. Mais... on dirait une dizaine.
Stéphane Dugast, on parle du rail d'Ouessant. Qu'est-ce que c'est ce rail d'Ouessant?
C'est le dispositif de séparation de trafic, le DST. Et en fait, on a un peu fait créé de façon, non pas factice, mais un petit peu, enfin sur les cartes, on le représente sur les cartes, mais quand on est en mer, on le voit pas pour avoir navigué là-bas. Et on le comprend et on a fait un sens de circulation où les navires se croisent sur bâbord pour évidemment éviter les grands télescopages. Et puis il faut imaginer que ces navires de commerce, ces porte-containers, c'est pas comme la voiture, on s'arrête pas instantanément.
Et oui.
Donc puis il y a toute une veille qui se fait à la radio puisque les marins communiquent beaucoup par VHF et notamment avec tout un dispositif de sémaphores. Donc les sémaphores, c'est pour reprendre cet exemple, c'est un peu comme des tours de contrôle des aéroports qui sont disséminés le long de tout le territoire. Puis vous en avez qui sont plus importants, le Cross Etel, le Cross Corsen, le Cross Grinet. Et eux coordonnent un petit peu tout ce trafic maritime et surtout coordonnent les sauvetages si opération de sauvetage il y a. Et donc vous avez un sens pour naviguer quand vous remontez sur Ouessant. Puis on a écarté cette autoroute, ce rail. On l'a mis un peu le plus loin possible des côtes pour prévenir tout danger et agir efficacement.
Clément Belin et Costes, vous avez eu envie, alors vous connaissiez, vous êtes manifestement amis, vous avez eu envie de le faire sous forme d'une bande dessinée, hein, d'un docu-fiction. Pourquoi vous avez eu envie de raconter cette histoire sous cette forme-là? Qui a eu l'idée des deux d'ailleurs? D'où est venue l'idée?
C'est moi qui...
Costes.
Qui a embarqué Clément dans l'histoire.
Pourquoi alors? Pourquoi l'envie de raconter ce qui se passe à bord de ces bateaux? Très mal connus, hein, finalement. On ne sait pas ce qui se passe à bord de ces bateaux.
Voilà, on ne sait pas ce qui se passe à bord d'air marqueur. Peut-être un peu plus que des cargos, finalement.
Ouais.
Des cargos qui croisent au large, qu'on voit très très peu. Et c'est venu parce que on est tous les deux passionnés de BD, quand même.
Ouais.
C'est quelque chose qu'on a pratiqué régulièrement. Clément a déjà été édité. Et voilà, on est toujours à la recherche d'essayer
alors,
de faire une BD.
Y a, évidemment, quand on vous lit, on cherche la part du vrai et la part de la fiction. Hein. Vous avez, pour vous protéger, vous avez dit c'est un docu-fiction. Vous mettez bien en garde, en début de votre ouvrage, à tous ceux qui diront que ça ne s'est pas du tout passé comme ça, nous tenons à préciser que toute ressemblance avec des situations réelles, des personnes existantes, est purement fortuite. On sent un petit peu d'ironie dans tout ça. On sent que vous vous êtes inspiré de votre univers, mais vous voulez de problèmes avec personne. Alors vous dites, oui, tout ça n'est que pure fiction. C'est quoi la part de réalité et de fiction dans tout ce qu'on va raconter dans cette émission? Je vous vois avec un grand sourire. Clément Belin.
Alors... Bon, effectivement, c'est de la fiction parce que les personnages sont fictifs. Forcément, ils sont inspirés de certaines figures qui ont fait leur carrière aux abeilles. Après, il y a des choses qui sont fictives parce que pour que la BD soit intéressante, on voulait rajouter quelque chose. Enfin, éviter de, parce qu'en général, un remorquage, ça se passe très bien, ça se passe simplement. Les équipages sont bien rodés. Donc nous, on voulait montrer un peu des
personnages. Oui, parce que vous, en plus, c'est un remorquage qui se passe évidemment avec pas mal de péripéties, mais on apprend quand même des choses, notamment cette façon de négocier un sauvetage avec les personnes en péril. Il y a beaucoup de choses à raconter. On va découvrir qu'il y a ces phases de négociation étonnantes. Vous allez nous raconter les coulisses de ces remorqueurs qui assurent la sécurité des côtes françaises et ont évité bien des catastrophes. Le temps d'un bivouac au large de la pointe Finistère sur France Inter.
C'était Echo Beach, Martha and the Muffins sur France Inter, le temps d'un bivouac.
La remorque est maintenant passée. L'opération semble réussie.
Ouais, le mobilier vient aussi ce moment-là, donc moi je leur ai ordonné d'être sur le pont à 18h pour les
trouver. Au bout de quelques minutes, tout lâche. Trop de tension sur les lignes et les câbles passés sur le remorqueur espagnol.
C'est en opération donc, de mise en place de l'embrayement. Et ça vient de casser, donc j'ai pas plus d'infos à vous fournir, à part que là pour l'instant ils n'ont plus rien en place, donc faut tout recommencer.
Un nouvel extrait de Thalassa pour illustrer notre bivouac avec Stéphane Dugast qui tient le blog Embarquement et Clément Belin et Costès, auteur de Fortune de mer paru chez Futuropolis. Ils sont nos invités cet après-midi et avec eux nous découvrons comment s'organise le sauvetage de cargos en perdition qui passe au large des côtes françaises et particulièrement de la pointe Finistère. Alors Clément Belin et Bruno Costebeau, c'est votre nom d'auteur, c'est Costès. Combien de temps vous passez à bord de ces bateaux remorqueurs, Costès?
Alors sur ces remorqueurs, il y a deux équipages complets qui se relaient. On fait des marées d'un mois. C'est-à-dire on est un mois sur le bateau et un mois à la maison.
Ouais. Pendant un mois.
Pendant un mois, on est toujours à bord.
Ouais. Sans toucher terre.
Si, on peut aller faire quand on est à quai, on peut sortir un peu du navire, mais faut être là. On se met 20 minutes. Faut que le bateau en 40 minutes est appareillé.
Et il y a, en fait, on imagine parfois des périodes d'ennui, en tout cas d'attente, et tout d'un coup, le sauvetage qui se déclenche. Qui est-ce qui déclenche, qui vous appelle en quelque sorte, Clément ?
En fait, sur ces bateaux, il y a une veille permanente. On écoute la VHF et on surveille aussi sur Internet la position des navires. Ouais. Si on voit qu'il y a un navire qui avance pas, qui se retrouve à deux nœuds, on commence à s'intéresser à ce bateau. Ouais. Après, on écoute, est-ce qu'il a envoyé un message ? Est-ce qu'il commence à discuter avec le cross, à faire ses
reportings ? Donc le cross, pour ceux qui ne sont pas... Stéphane Dugast, la sémantique, le cross.
Le cross, parce qu'en fait, tout ça, c'est que des acronymes. Hein. Ouais. Le cross, c'est le centre régional opérationnel de sécurité et de sauvetage, et c'est ceux qui coordonnent, qui assurent la coordination des sauvetages. Et pour compléter ce que disait Clément, il faut imaginer, il y a un petit côté désert des Tartares, où on attend l'impossible, mais il y a plein de gens qui sont les yeux et les oreilles de ce qui se passe en mer et qui sont capables, sur leurs écrans, et je pense que Clément et Costès le savent mieux que moi, c'est par rapport au mouvement du bateau, parce que c'est des grands porte-containers, donc le porte-container, il fait pas des zigzags sur l'océan. Ouais. Mais quand on commence à voir qu'il prend une autre route, qu'à la VHF, on a des signes qui laissent entendre qu'il a quelques petits soucis, je pense que vous êtes prêts dans les starting blocks
alors,
partir.
Pour bien comprendre comment tout ça est organisé, alors moi je l'ai appris, hein, évidemment, je ne savais pas ça, vous êtes missionné par l'État, mais ce sont des bateaux gérés de façon privée. Ce qui fait qu'on vous envoie sur site ou vous décidez d'y aller parce que vous voyez un bateau qui a l'air un petit peu dans la panade. Et parfois, en tout cas, c'est ce que vous racontez dans votre ouvrage, votre docu-fiction. Parfois, vous vous retrouvez à côté d'un bateau où il y a déjà un ou deux remorqueurs qui ont déjà repéré le bateau en perdition. Et là où ça devient assez surprenant, c'est que s'engage à ce moment-là une phase de négociation entre le commandant à bord de son bateau en perdition et les remorqueurs qui proposent de venir lui porter secours. Ça se passe souvent, cette phase de négociation ?
Très très souvent. Oui, c'est la plupart des cas, c'est comme ça.
Mais c'est assez étonnant de se dire... Alors, qui est en position de force pour négocier entre ce commandant qui est en perdition ?
En fait, il y a deux situations. Il y a situation où il y a un risque, il y a une urgence. Alors dans ce cas-là, en collaboration avec la marine nationale, il met en demeure l'armateur du navire de faire cesser les risques. Donc là, il est obligé de prendre un remorqueur.
C'est ça.
Il n'est pas obligé de prendre la Bourbon, il est obligé de prendre un remorqueur. Mais sauf que il faut que ce soit un remorqueur qui fasse l'affaire. Donc un gros remorqueur, si c'est un gros bateau.
Mais ce qui paraît quand même incroyable, Clément Belin, c'est qu'on se dit, en pleine tempête, il n'y a plus de temps à perdre, et on est en train de négocier le prix, on est en train de comparer les remorqueurs, parce que tous ne se valent pas. Hein, parmi les remorqueurs, il y en a certains qui sont plus ou moins en forme, plus
alors
ou moins
valables. Justement, il y a deux situations. Il y a cette mise en demeure, c'est quand il y a urgence, quand il y a tempête, quand il y a un risque évident. Quand il fait beau temps, là, il y a le temps de négocier. Donc, il y a une négociation qui peut se mettre en place. Mais l'État français, par le biais de la Marine nationale, s'il y a urgence, il met en demeure l'armateur de faire cesser le risque. Et donc, à ce moment-là, le remorquage est obligatoire.
D'accord.
Et le plus rapide possible.
Et qui paye à l'arrivée ?
Alors, l'État français paye ses navires pour être là, disponible 24 heures sur 24, 365 jours dans l'année. Mais après, à l'issue du remorquage, il va y avoir... paiement par l'armateur du navire qui a été remorqué.
Stéphane Dugast.
Oui, deux choses pour ressouligner ce que disait Clément. C'est que la première, effectivement, en cas d'urgence, c'est le préfet maritime, donc un officier général, un amiral de la Marine nationale, qui ordonne d'avoir un remorquage. Et ça, c'est consécutif à la Moco Cadiz, au Yevolisson, à l'Erika, puisque ces affaires, tout ce que ça a créé, cette pollution, a fait qu'on a légiféré, que l'État français s'est organisé. Ce qui peut paraître comme aussi un business aux yeux des terriens, en se disant, mais comment ça, on est en train de négocier en mer alors que la catastrophe va devenir inévitable. Il faut savoir que au-delà de 12 000, donc au-delà d'une vingtaine de kilomètres, vous êtes dans les eaux internationales, et dans les eaux internationales, c'est le principe de la liberté. C'est la liberté des mers. L'océan n'appartient à personne. Donc évidemment, faut avoir les bonnes règles, parce que si tous les navires se télescopent et se croisent et s'entrechoquent, ça va pas marcher. Et c'est toute la subtilité de ces opérations de sauvetage où l'État français, en tout cas, a beaucoup légiféré et a mis beaucoup d'administrations, les douanes, les affaires maritimes. Et il met aussi en œuvre la SNSM, la Société nationale de sauvetage en mer, pour des sauvetages beaucoup plus petits, puisque évidemment, c'est des petites vedettes qui partent plutôt secourir les plaisanciers, encore que ça peut être des pêcheurs. Et tout ce dispositif permet, en tout cas en mer, d'assurer une sécurité qui sera jamais totale, puisque l'océan, par essence, c'est l'espace des imprévus.
Alors, une fois que la négociation a eu lieu et qu'on a désigné un remorqueur pour venir secourir le cargo en danger, il faut encore l'accrocher. Et là encore, parfois, c'est dans des situations... Alors, c'est très bien rendu, hein, le dessin Costes, bravo, hein, dans votre ouvrage, parce que on sent la tempête, on voit les couleurs, on y est, hein, j'avais presque le mal de mer en vous lisant, et on se dit, comment eux font-ils dans ces conditions pour aller accrocher des câbles qui font 40 kilos par mètre, donc c'est hyper lourd, pour aller accrocher ces cargos gigantesques. Alors, décrivez-nous ça, vous qui l'avez vécu sur le terrain, Costes.
Après, c'est des gestes, tout ça, c'est des gestes techniques qui sont bien rodés, hein. C'est quand même des équipages qui ont l'habitude de faire ça, qui font quasiment que ça. Et donc à l'aide de treuils, de systèmes de renvoi, de câbles, d'haussières, on parvient à effectivement amener une remorque, un gréement très très lourd, en haut, tout en haut, parce que l'étrave du navire remorqué par rapport à la plage arrière où se passe la mise en place de cette remorque, ça fait une bonne différence de hauteur. Et donc il faut monter tout ça sur l'étrave du bateau qui va être remorqué. Et ça, on le fait grâce au bateau remorqué ou grâce à nos six appareils de pont à nous.
Ouais. À vos quoi, pardon ?
Les appareils de pont, les appareils. Ouais.
Mais alors, vous le dites avec une simplicité presque comme si vous étiez en train de brancher un appareil. Vous n'avez jamais peur, vous n'êtes jamais dans des situations où vous risquez vos vies dans ces tempêtes pour accrocher ces cargos ?
Alors les gens qui sont sur la plage arrière, les marins qui sont sur la plage arrière, oui, ils doivent toujours faire attention à ce qu'ils font parce que c'est des câbles, dès qu'il y a de la tension, ça peut rompre et ça peut blesser ou ça peut tuer. Mais c'est quand même un exercice qui est bien rodé. Et ce qu'on n'a pas dit, c'est que la première amarre est envoyée avec un pistolet lance-amarre, donc un pistolet air comprimé, ce qui permet d'envoyer le premier boot, qui est un petit bout de tout fin. Ouais. Et petit à petit, on en voit de plus en plus gros jusqu'à passer le fil d'acier à la fin qui fera le remorquage.
Alors, ça réussit la plupart du temps, mais il arrive encore que des sauvetages, des opérations de sauvetage n'empêchent pas d'éviter des catastrophes. Exemple, en 1999.
Le naufrage du pétrolier Lerica au large de Brest, le navire qui battait pavillon maltais s'est brisé en deux dans la tempête. Les 26 hommes d'équipage ont pu être secourus, mais l'inquiétude vient ce soir des 24 000 mètres cubes de fioul lourd qui se sont répandus dans la mer. La nappe qui s'est formée dérive actuellement vers le large. Il n'y aurait aucun risque de pollution côtière selon le CEDRE, le Centre de Recherche et d'Expérimentation sur les pollutions accidentelles des eaux.
Nous étions le 12 décembre 1999. On nous disait aucun risque de pollution. La suite sera bien plus tragique. C'était le navire Erika, bien sûr. Alors là, pourtant, ce dispositif existait déjà hein, pour essayer de surveiller les côtes. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, Stéphane Dugast ?
Nouvelle catastrophe, nouveau état de choc pour la population bretonne. Là, j'étais jeune reporter, j'avais grandi, ouais. Et là, je le vivais en pleine poire, comme ouais. tous les amoureux du littoral.
Pourquoi les remorqueurs n'ont pas réussi à...
Puisque le bateau gîtait déjà, donc ce qu'il faut comprendre, c'est que le bateau était, on va dire, était penché. Il y a dans les bateaux un système de ballast qui permet de entre bâbord et tribord, donc entre la gauche et la droite, d'équilibrer le bateau, et que le navire, toutes les opérations... C'est un peu la loi de Murphy, c'est-à-dire qu'un événement ouais. s'enchaîne à un autre événement qui enchaîne à un autre événement. Et le bateau, l'Abeille Flandre, va être sur place. Il y a un super frelon en hélicoptère de la Marine nationale qui survole la zone. Et le bateau va carrément se disloquer. L'Abeille Flandre, de mémoire, va essayer de tirer la poupe du bateau, donc l'arrière, pour essayer que la pollution soit en tout cas que ça se diffuse dans l'océan. Et malgré tout, vous êtes en pleine tempête, et quand vous êtes en tempête, vous n'êtes pas comme à terre et vous ne pouvez pas bouger comme à terre, et donc l'inévitable est une nouvelle fois arrivé.
Oui, voilà, on nous disait non, cette fois-ci la pollution ne parviendra pas jusqu'aux côtes. Malheureusement, la pollution a été terrible.
Destination la nappe de pétrole. À 30 mètres d'altitude, la marée noire n'a rien de spectaculaire. Il n'y a pas de nappe massive, effrayante. Le pétrole s'est fractionné, dispersé. On voit des taches circulaires, couleur chocolat, d'environ 40 mètres pour les plus grosses. Ces plaques de pétrole, il y en a des dizaines, sont très éloignées les unes des autres. Elles s'étendent sur plus de 20 kilomètres. À cause de la houle, les bateaux de pompage ont beaucoup de difficultés à travailler. Ils sont sales, tachés par le fioul, et pour l'instant, ils n'ont pratiquement rien aspiré.
Alors, est-ce qu'on évoque sur ces remorqueurs, Clément Belin et Costes, est-ce que ces histoires, alors c'est pas du tout de la faute des remorqueurs, hein, c'est juste la situation qui a fait que ça s'est mal passé, mais est-ce que entre vous vous en parlez et est-ce qu'il y a quand même des leçons qui ont été tirées pour que la prochaine fois on s'y prenne mieux?
Alors c'est quand même assez ancien, donc on n'entend pas très souvent parler. Enfin, en tout cas sur la baie Flandre, parce que maintenant on est à Toulon, mais. Ouais. Je pense que là, surtout, le bateau est arrivé trop tard. Il a été prévenu trop tard et donc il n'y avait plus rien à faire. Mais effectivement, si on est sur zone suffisamment tôt, on doit pouvoir éviter ce genre de choses.
Oui, parce que ce que j'ai oublié de dire, c'est que quand le bateau a gité, quand l'Erika a gité, il a demandé à un moment, puisqu'en plus, entre le commandant et le second, ça a été un peu une pièce de théâtre, ils n'étaient pas d'accord. Mmh. Et il a demandé à rentrer dans le port de Donge et à remonter la Loire, sauf que la Loire n'avait pas de dispositif avec les nappes de pétrole qui arrivaient, ça a été refusé. Et la tempête a forci, donc l'inévitable est arrivé. Et effectivement, comme le dit Clément, quand l'abeille est arrivée, il était déjà trop tard et elle pouvait remorquer qu'une moitié de bateau finalement.
Allez, on n'a pas encore abordé l'ambiance qu'il règne à bord de ces remorqueurs qui est très bien décrite dans votre roman graphique Fortune de mer. Vous allez nous raconter ça dans un instant, le temps d'un bivouac sur France Inter. Advertising imaginative ways, start your free trial today. Come on in the waters, lovely look. Meet someone you like, you're in the meat of your strike. It is that easy. Lunar surface on a Saturday night, dressed up in silver and white, with colored old grey whistle test lights. Take easy for a little while, come and stay with us. It's such an easy flight, you new places keep on popping up since the Exodus. It's all getting gentrified. Well reviewed, 4 stars out of 5, and that's unheard of. I'm Mr. Bridge and Tunnel, I'm a Starlight Express, the head of special effects in my mind's eye. Okey-cokey with the opposite sex, the things you try to forget, doesn't time fly? I'm in no position to give advice, I don't wanna be nice, and you know that. Take it easy for a little while, come and stay with us. It's such an easy flight, cute new places keep on popping up around Clavius. It's all getting gentrified. It's the place to go, and you will not recognize the old headquarters. All the nights that never happened, and the days that don't exist, have the information action ratio. Only time that we start laughing is to breathe or steal a kiss. I can get you on the list for all the clubs. I can lift you up another semitone. Fault 5, c'était Arctic Monkeys sur France Inter, le temps d'un bivouac.
Donc Bourbon et Argonautes, je vous fais un petit point de situation sur les opérations qui vont avoir lieu demain. Donc, Centaurus va tenter une opération avec une haussière moins importante, 44 mm, pour essayer de gagner du temps. Sachant que l'estimation de Seclan pour l'instant, c'est que le Modern Express arriverait sur les côtes françaises mardi matin.
opération de sauvetage en mer en cours dans le temps d'un bivouac cet après-midi avec autour de la table Stéphane Dugast qui tient le blog Embarquement et Clément Belin et Costès, auteur de Fortune de mer aux éditions Futuropolis. Dans cet album, vous dépeignez une atmosphère quand même assez particulière à bord de ce remorqueur de mer. Déjà, il y a les odeurs, hein, il y a le bruit, il y a l'ambiance et même entre les hommes, on sent que c'est assez rude, c'est très hiérarchisé. Vous aviez aussi envie de laisser transparaître ça, Clément Belin ou Costès? Ils ouais, se font des politesses.
C'est ce qui fait le sel un peu du bouquin, l'ancrage vraiment. Le fait qu'on soit vraiment dans le bateau, c'est connaître ses sensations, ses rapports entre les personnes qui sont assez abruptes.
Ouais, assez abrupt, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, il y a le Bosco. Alors le Bosco, c'est le maître d'équipage. Lui, alors dans votre fiction, c'est un jeune remplaçant qui arrive à bord. Et à peine est-il monté à bord que le Bosco l'accueille en lui disant un bon à rien chasse l'autre ou quelque chose comme ça. Enfin, un accueil glacial, voire complètement désagréable. Là, vous forcez le trait ou il faut être bien accroché quand on est nouveau sur ce genre de bateau, Clément Belin?
Alors non, je pense que le trait n'a pas été trop forcé. Alors c'est représentatif d'une génération qui est peut-être en train de partir à la retraite, mais c'est vrai que les mœurs pouvaient être assez rudes à bord. Il y a aussi les officiers et l'équipage, donc entre les deux, il peut y avoir des frictions. Et le jeune officier, lui, il arrive là, il a tout à apprendre. Et voilà, il faudra qu'il fasse ses preuves, parce que le Bosco, il a quand même toute la maîtrise de ce qui se passe sur le pont. Et il a la compétence, il a l'expérience. Ouais. Donc voilà, c'est un personnage central avec le capitaine.
Ouais, le Bosco, c'est ça. Alors en plus, le Bosco et le capitaine. Alors le Bosco, c'est le maître d'équipage. C'est lui qui a toute la technique, tout le savoir-faire pour passer ses câbles en conditions très périlleuses, ces câbles très lourds dont on parlait tout à l'heure. Et on sent un peu qu'il a le pouvoir à bord. Hein. C'est-à-dire qu'il se permet un peu de dire à tout le monde, y compris au capitaine, ce qu'il pense, voire de l'insulter. Et finalement, il a une bonne partie du pouvoir. Il est indispensable et il le sait, Costès.
Oui. Après, les rapports, les insultes, les mots qui volent souvent, c'est une façon de s'exprimer à bord qui, voilà, y a jamais rien de personnel derrière. C'est un peu comme ça, quoi. On s'exprime de façon très franche, toujours un peu brutale, souvent un peu brutale. Mais c'est parce qu'il faut aller vite, faut que ça soit clair. On est toujours impatient, un peu dans l'action.
On a l'impression que c'est aussi très hiérarchisé, que tout le monde ne peut pas aller, n'est pas le bienvenu au même endroit. On ne se mélange pas entre corps de métier. C'est ce que j'ai ressenti en vous lisant. C'est vrai? C'est le cas ou pas?
Oui, alors c'est un peu moins vrai maintenant. Je pense que ça s'est assoupli. Les mœurs se sont assouplies, mais ça peut être assez représentatif quand même de ce qui se passe en réalité. Mais vous dites que le Bosco, il a tout le pouvoir. Bon, c'est quand même le capitaine qui a le dernier mot.
Oui.
Dans la BD et dans la réalité également.
Et dans la réalité. Tiens, vous voulez qu'on en entende un de capitaine? Alors le vôtre, je crois, il est inspiré de plusieurs capitaines qui ont réellement existé. De toute façon, vous nous l'avez dit, toute ressemblance serait fortuite. Hein. Vous voulez aucun souci avec personne. Je vous propose d'en écouter un de capitaine, enfin de commandant. Il s'appelle Charles Cladden di Carlos. Écoutez-le parler de son équipage.
Je crois que j'ai plus d'amour pour l'équipage que pour le bateau. Parce que dans ce type de métier, le bateau est important. C'est vrai. Bon, l'amour du bateau, mais pas l'amour du bel objet, quoi, mais de quelque chose qui doit fonctionner, qui est un outil, bon, autant que cet outil soit bien huilé, soit parfait. Le bateau, en fait, est englobé dans l'équipage. C'est l'équipage qui l'entretient. C'est eux qui vont se battre, qui vont faire les choses pour que justement ils soient bien entretenus. Mais c'est eux derrière qui vont souffrir. Je dirais dans toutes ces opérations-là, si elles sont réussies, c'est 98% grâce aux hommes qui sont en bas à la machine et à ceux qui s'en sont.
Charles Cladden dans le doc L'Abeille Flandre, chasseur de tempêtes de Hervé Hamon. Il décrit un univers plus soudé que ce que vous nous montrez. Alors qui est-ce qui embellit, qui est-ce qui dramatise? Clément Belin.
Non, peut-être que pour la réalisation de la bande dessinée, on est un petit peu dramatisé, mais il faut donner un petit peu de sel aussi, sinon on s'ennuierait à la lecture.
Moi, je pense que les deux sont pas incompatibles. C'est-à-dire qu'il faut faire ses preuves. Une fois que les preuves sont faites, là, le jeune lieutenant qui arrive n'a pas fait ses preuves, donc forcément, il est mis à l'épreuve au départ. Mmh. Et au fur et à mesure de la BD, on se rend compte qu'il s'intègre à l'équipage et qu'il est pris dans cette équipe. Ouais. Et même si les rapports restent toujours assez tendus, il y a un corps qui se crée.
Et pour cette cohésion, les moments importants, en tout cas, c'est encore une fois l'impression qui se dégage, ce sont les repas. On a l'impression que beaucoup de choses se jouent au moment des repas à bord de ce bateau. C'est le cas ?
Oui, c'est le cas. Oui. C'est le moment où tout le monde se réunit. Enfin, tout le monde, c'est-à-dire d'un côté l'équipage, de l'autre côté les officiers. C'est assez séparé. Mais c'est un moment où on peut communiquer. Parce que quand on est en quart, on ne voit presque personne. Hein. C'est celui comme le héros là, qui fait le minuit 4 heures, ouais. Le quart de minuit à 4, lui ne voit personne. Oui, son matelot de quart et c'est tout.
Parce que sur ce bateau, en fait, voilà, ça tourne et en permanence, il y a des gens sur le pont pour surveiller. Alors, on apprend aussi, en vous lisant, beaucoup de jargon du domaine. Bon, il y a le Bosco hein, que j'évoquais. Par exemple, alors pays, ça réveille bien. C'est quoi le pays dans ce... Je ne sais pas si je prononce... On dit pays, peut-être. Je ne sais pas comment on le prononce.
Non, c'est alors, pays, c'est tout à fait mon gars, je dirais.
Il faut embouquer le chenal du four, puis la helle. Qu'est-ce que ça veut dire, embouquer ?
Embouquer, bah, c'est-à-dire prendre le chenal, utiliser le chenal.
Ouais. Ça vous paraît
rentrer dans
logique.
Le chenal.
Ouais. Ouais, ça vous paraît tout à fait logique. Bon, bah, ouais, en tout cas, c'est des mots que je ne connaissais pas. Au guindeau, le guindeau, c'est quoi ?
Le guindeau, c'est l'appareil qui sert à relever les ancres et qui sert aussi pour la manœuvre à l'avant, mais c'est surtout pour le relevage des ancres.
Ouais. Donc il y a tout ce vocabulaire hein, qu'on apprend en vous lisant, et puis on comprend aussi que quand vous arrivez à terre, pendant les escales, c'est aussi un moment de soulagement, de défoulement, c'est aussi le moment où on se met en avant dans les tavernes du port. Ça aussi, c'est inspiré de faits réels.
Oui, c'est les moments de relâchement où on n'est plus sur le bateau, où on n'est plus dans cette ambiance, où il n'y a plus vraiment de hiérarchie. Le lieutenant se mêle à l'équipage, chacun paye son coup, les langues se délient, et puis ça permet aussi une cohésion de l'équipage, ça.
Stéphane Dugast.
Oui, il faut juste imaginer que c'est des huis clos, que vous êtes 24 heures, 300, enfin pas 360 jours par marée, mais et qu'il y a une tension, que vous êtes dans un univers qui bouge, et pas comme à terre. On a compris que chez les marins, c'est la même chose dans la marine nationale pour y avoir beaucoup embarqué. C'est on va à l'essentiel, faut que tout soit clair et que quand il y a des opérations, il n'y a pas le temps des balivernes. Et j'allais compenser ce côté un petit peu abrasif qu'on peut avoir entre l'ancien et le jeuneau, qui arrive surtout en plus entre le jeune officier et puis quand la personne qui est la plus qualifiée est pas officier. Mais il y a aussi tout un compagnonnage qui est, et on le sent dans votre livre, dans votre roman graphique, on le perçoit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de toutes ces caricatures, de ces cloisonnements aussi, qui sont peut-être aussi indispensables pour que le matelot soit, en tout cas l'équipage, il soit avec l'équipage et puis que de temps en temps vous voyez à terre. Et ce qui est intéressant dans cette vie, dans ce huis clos, c'est pour durer, c'est cette histoire, moi j'aime bien, de solidarité par moment. Et en mer, c'est pas un vain mot. Et c'est aussi cette histoire de fraternité, parce qu'on partage des moments assez forts. Moi, j'ai plein d'amis marins avec qui je partageais des moments forts. Quand on est à terre, on est d'une infidélité chronique, on se voit quand on peut, mais sont restés des moments très très forts. Et je pense que dans cet album, vous nous faites l'immense privilège et l'immense plaisir de nous faire partager ce qu'est en fait le métier de marin, qui est dur à décrire, parce qu'on l'a décrit pendant des années comme avec son romantisme un peu échevelé. Et grâce à votre roman graphique, moi j'avais l'impression d'embarquer de nouveau. Donc bravo.
Ce sont des voilà, ça vous avez plu à un fin connaisseur, notre expert marine Stéphane Dugast. Ce sont des moments forts. Est-ce que ce sont aussi des moments usants ? C'est-à-dire, vous faites ce métier depuis 5 ans, est-ce que vous vous y voyez encore pour longtemps ? D'ailleurs, sans tout révéler, mais à la fin du livre, hein, le Bosco et le capitaine, ils disent faudrait peut-être qu'on raccroche, on est peut-être un peu trop vieux pour ces conneries. Alors vous, est-ce que vous en êtes là ? Est-ce que vous voyez encore longtemps sur ces bateaux ?
Alors là, je peux pas vous dire, mais... Un certain temps, en tout cas, c'est sûr.
Ouais, ça fait.
Tes œufs comme des marins. Et
ça
vous
fait 5 ans qu'on est sur le remorqueur, mais ça fait 20 ans qu'on navigue.
Ouais.
Mais du coup, c'est fatigant, la vie en mer, c'est fatigant.
Ouais.
C'est...
Puis on imagine aussi pour la vie de famille, hein, il faut pouvoir concilier tout ça. Donc ça veut dire que vous y êtes encore pour longtemps, ou ça veut dire qu'un jour, il faudra trouver plus calme.
Moi, j'aurais du mal à ne plus embarquer. J'aime vraiment les bateaux. Et c'est difficile de rester à terre. 3 mois j'ai fait à terre, mais après, c'est assez indispensable à une équipe, je trouve.
En tout cas, on peut découvrir donc votre roman graphique, Fortune de mer, c'est chez Futuropolis, signé Clément Belin et Costès. Et puis Stéphane Dugast, on peut vous lire sur votre blog Embarquement, toujours aussi passionnant à lire. Allez, restez tous les trois avec moi dans un instant. Je vous emmène à Venise.
C'est un pont perdu sur l'Atlantique. C'est exotique, c'est exotique. C'est un grand secret sous les palmiers. C'est fantastique. Je pourrais te montrer. Pour y aller, c'est très facile. Ferme les yeux et laisse le centre mêler tes cils. Déjà.
C'était la baie Clara Luciani dans le temps d'un bivouac sur France Inter et c'est Djoubaka qui signe la programmation musicale de cette émission.
Allô ?
Allô ?
Ah oui ?
Sur France Inter.
Vous pouvez patienter un petit moment ?
Oui, mais c'est le satellite qui attend.
Eh oui, c'est le satellite, bien sûr.
L'aventure en direct.
L'appel téléphonique le plus extraordinaire que j'ai jamais fait, dit-il.
Bonjour, Victorien Hérussard.
Bonjour.
Vous êtes capitaine de l'Energy Observer, premier navire propulsé aux énergies renouvelables et à l'hydrogène. Vous et votre équipe, vous êtes partis de Saint-Malo le 26 juin 2017, hein, donc il y a un peu plus d'un an, pour une odyssée de 6 ans autour du monde, avec l'objectif de découvrir les solutions inspirantes pour l'environnement. Et vous vous trouvez où exactement alors ?
Ah bah dans une magnifique ville, hein, je suis à Venise.
Ah bah décrivez-nous un petit peu, donc vous êtes où exactement ? Sur la marina d'Île Certosa, je crois.
Oui, tout à fait, là. Et puis j'ai emmené un petit groupe des journalistes tout à l'heure vers la fameuse place Saint-Marc. Donc moi je découvre cette ville si emblématique, c'est absolument incroyable d'être ici.
Alors décrivez-nous un petit peu ce que vous voyez, faites-nous en profiter, et pas seulement les journalistes qui sont avec vous.
Bah écoutez, Venise c'est quand même une ville assez incroyable. On a une ville qui est entourée par cette lagune, par la mer. Hein. J'ai pu la découvrir de plus près parce que j'ai régaté sur un navire classique en bois. J'ai même chaviré lors de cette petite régate. Donc je suis resté entre deux eaux pendant quelques heures. Et donc c'est incroyable, c'est tout ce trafic maritime. Ici, à Venise, il y a plus de 50 000 bateaux, hein, donc les fameux taxis, les vaporetto, et les bateaux de particuliers. Donc il y a énormément de trafic maritime. Ce qui est incroyable, c'est de voir qu'ils sont encore tous avec des propulsions thermiques diesel.
Mmh. Ah oui, alors là, évidemment, ça vous intéresse. Hein. On va le comprendre pourquoi dans un instant, parce que vous, évidemment, vous voyagez beaucoup plus propre. Ça fait un an que vous voyagez, hein, je le disais, vous êtes parti le 26 juin 2017. Vous êtes passé par où avant d'arriver à Venise la semaine dernière?
Alors notre odyssée autour du monde, elle est composée par 6 années. On commence par une première phase de 3 ans pour un tour d'Europe. L'année dernière, on a fait un tour de France avec environ une quinzaine d'escales en partant par notre inauguration de notre baptême à Paris. Et on a terminé le tour de France à Monaco puis Marseille. Et on a commencé notre tour du bassin méditerranéen fin mars. Donc on a fait le tour de la Méditerranée. Enfin, on a encore quelques pays à parcourir. Donc on est parti de Marseille, on est allé vers Tunisie, Malte, la Grèce, Israël, Chypre. On a fait la Grèce, hein, on a traversé les îles grecques, et puis on a fait Albanie, Croatie, Monténégro. Et là, on est en Italie, à Venise. Donc, et alors, on ne chôme pas.
Oui, j'entends ça, mais Venise, pour vous, c'est une ville qui cristallise un peu, au-delà effectivement de la beauté du lieu, tous les problèmes que peut rencontrer aujourd'hui la Méditerranée.
Ben oui, effectivement. Donc c'est vrai que cette ville subit une forte pression touristique. Là, on voit là le long du bateau plusieurs ferries passer, plusieurs paquebots de croisière passer tous les jours, hein, avec toutes ces problématiques qui m'ont fait agir. Hein. C'est vrai que je me sers souvent de ces bateaux comme exemple. Malheureusement, ils utilisent comme combustible du fuel lourd avec tous les problèmes des dioxydes de soufre et d'azote. Et je pense vraiment à la vue des 8000 milles de navigation qu'on a fait là autour de l'Europe.
Oui.
L'hydrogène est un vecteur énergétique d'avenir formidable.
Ben oui, parce que vous, votre bateau, il fonctionne de manière autonome à l'hydrogène, à l'énergie renouvelable. Comment il est propulsé exactement, votre bateau?
Ben en fait, comment on a une propulsion électrique. Et on essaye d'emmagasiner le maximum d'énergie locale, renouvelable. Hein, donc on essaye de maximiser les surfaces solaires, éoliennes à bord. Tout ce qu'on peut emmagasiner, on le prend. Et lorsqu'on est en excédent d'énergie, de batterie, on valorise cette énergie en produisant de l'hydrogène à partir de l'eau de mer. Donc c'est vraiment, ce bateau, c'est un démonstrateur qui a une vocation pédagogique, de sensibilisation. Et on représente ce cercle vertueux d'énergie qu'on veut voir se développer pour la mobilité maritime, mais aussi pour des applications terrestres. Et je vous jure que une fois que vous avez franchi le cap, quand vous naviguez sur ce genre de bateau qui n'émettent pas de gaz à effet de serre, qui n'émettent pas de particules fines néfastes pour la santé, mais aussi qui ne fait pas de bruit, on peut plus revenir en arrière.
Merci Victorien Hérussard pour nous avoir fait rêver avec un bateau ultra propre, hein, qui n'émet pas de pollution. Vous repartez le 16 juillet prochain, quelle sera la prochaine étape?
Alors là, on fait le tour de l'Italie, on va faire un petit passage du côté du sud de la France. On va s'arrêter à Saint-Tropez, puis on va repartir vers l'Espagne, le Maroc, puis le Portugal, avant de revenir à Saint-Malo. Il y a un grand événement.
Très bien.
C'est le départ de la route du Rhum, il y a plus de 2 millions de personnes à passer, donc on sera avec notre village itinérant pour faire découvrir notre navire et aussi toutes les solutions
toutes les innovantes qui sont à bord de votre bateau. On l'a bien compris. Merci à vous, Victorien Hérussard, et bonne route.
Dites-leur que s'il ne quitte pas mon bateau immédiatement, je les préviens, ça risque de chier les bulles.
Demain à 16h, nous vous proposerons une nouvelle diffusion de notre bivouac sur l'histoire des esclaves oubliés de l'île de Tromelin. Et après